voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Victor Massé de l'Épinay rencontre Jacques Vendroux. Ce soir, un pistonné de la République.
Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir.
Jacques Vendroux, je ne sais pas si vous êtes un grand amateur de chiffres. Moi, je me méfie un peu parfois de l'usage croissant qui est fait des statistiques pour évoluer les performances, que ce soit dans le média qui est le nôtre, la radio, ou pour le sport dont nous allons beaucoup parler cette semaine, le football. Les chiffres ne disent pas tout, mais c'est pourtant avec quelques chiffres que j'aimerais commencer cette série d'entretiens. Dans quelques jours, vous serez en Russie, d'où vous piloterez la couverture de la Coupe du Monde pour les antennes de Radio France, et en particulier pour le service des sports que vous dirigez. Ce sera votre 11e Coupe du Monde professionnelle. En 2018, vous avez fêté vos 70 ans, dont 52 années de métier, 52 années de maison, comme on dit ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres ?
Je me suis rendu compte de rien. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de réaliser mon rêve. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, à Calais, je voulais devenir soit le meilleur gardien de but du monde, qui était à l'époque Gordon Banks, qui était le gardien de l'équipe de Stoke City en Angleterre, et aussi le gardien de but de l'équipe d'Angleterre, qui était championne du monde en 1966. Et pourquoi je voulais devenir Gordon Banks ? Pour une raison très simple, c'est que j'étais d'abord gamin, j'adorais le foot, mais on y reviendra. Je regardais la télévision chez mon grand-père en noir et blanc, et il y avait une émission qui s'appelait The Match of the Day, qui était l'équivalent du téléfoot français, mais en Angleterre. Et vous le savez, Calais, l'Angleterre, il y a à peine 30 kilomètres, donc on avait la permission, le soir à 18h, d'aller chez mon grand-père, avec mon père, assister à cette émission The Match of the Day, et c'était l'époque où, bien sûr, Banks était le meilleur gardien du monde, c'était dans les années 60, et donc moi, comme je jouais déjà gardien de but au Racing Club de Calais, et bien comme tout gamin, je voulais m'habiller comme lui, je voulais dormir comme lui, je voulais me coiffer comme lui, je voulais m'habiller comme lui, je voulais faire les mêmes arrêts que lui, mais bon, à la sortie, j'ai terminé journaliste sportif. Donc ça, c'est le premier point de départ de mon premier rêve, inavoué, mais qui a été réalisé aussi quelque part, quelques années après, avec le Variété Club de France, où je suis devenu le gardien de but titulaire pendant un certain temps.
Alors le Variété, on en parlera cette semaine, bien sûr, le football aussi. Mais vous avez évoqué votre grand-père et votre père. J'aimerais qu'on commence un peu par parler de votre famille, la famille Vendroux. C'est une famille de Calais, vous l'avez dit. Vendroux, c'est les biscuiteries Vendroux. On voit quelquefois encore d'anciennes publicités avec des jeunes filles qui mangent des petits biscuits. C'est bien celle-là, votre famille. Mais votre grand-père n'était déjà plus dans les biscuits.
Moi, j'ai des souvenirs de mon grand-père qui sont d'abord merveilleux. Parce que je vous rappelle, j'allais le dimanche après-midi, j'allais voir le Racing Club de Calais où je jouais avec mon père. Et l'autre dimanche, j'allais voir l'autre club de Calais qui s'appelait l'US Calais. Donc moi, mes souvenirs avec mon grand-père, c'est des souvenirs de vestiaire, c'est des souvenirs où j'étais très fier. J'allais avec mon grand-père au foot, comme j'allais avec mon père au foot.
Mais votre grand-père était le maire de Calais.
Oui, mon grand-père était le député maire de Calais, et donc qui en plus était de la famille du général de Gaulle, parce que la sœur de mon grand-père, Yvonne, est une Yvonne Vendroux qui, quelques années plus tard, a épousé le général de Gaulle.
Les Français l'ont beaucoup appelée tante Yvonne. Vous, c'était véritablement votre tante. Quel souvenir vous gardez d'elle ?
Vous savez, il y a une image qui est souvent un peu déformée des gens ou des personnalités qui sortent de l'ordinaire. On a toujours l'impression, en tous les cas, moi je peux parler de ce que je connais, de faire les questions et les réponses. Et donc je me suis aperçu, pour aller en week-end à Colombey régulièrement, pendant de longues années avec mon cousin Alain de Martignac, avec qui j'ai été élevé, on allait à Colombey, mais on n'allait pas chez le président de la République, on allait chez un oncle. Donc on allait chez oncle Charles et chez tante Yvonne, et on se mettait à table, on attendait que tante Yvonne arrive dans la salle à manger pour s'asseoir. Enfin, il y avait un genre de un certain nombre de choses qu'il fallait faire, parce qu'on était normalement bien élevés, même les enfants, même si on était un petit peu espiègles.
Un peu de protocole.
Non, c'est pas un protocole, attention, président de la République, etc. C'est un protocole d'une certaine génération. Moi, quand j'allais déjeuner chez mon grand-père, on rentrait dans la salle à manger avec mon cousin, et puis on était debout, et quand ma grand-mère arrivait, elle s'asseyait, nous nous asseyons. Mais c'est pas un protocole qui était réservé au général de Gaulle, président de la République, ou au général de Gaulle tout simplement. C'était une ancienne version, d'une éducation qui a forcément disparu maintenant avec nos parents, mais c'est quelque chose qui existait dans toutes les familles, de cette période-là, c'est-à-dire les années 40, les années 50, les années 60, moi je suis né en 48, c'était des traditions et des habitudes dans certaines familles, voilà, dans la mienne.
Alors, vous nous dites que le général de Gaulle, pour vous, était avant tout oncle Charles et pas le président de la République. Quand vous étiez tout enfant, néanmoins, donc vous aviez 10 ans quand il est revenu aux affaires, en 58. Est-ce que vous avez des souvenirs qui précèdent le de Gaulle président? C'était quand même déjà un personnage. On imagine que tout petit garçon, vous saviez déjà qui était oncle Charles.
Mais ce qui est très, très curieux dans cette histoire, c'est que mon grand-père, mon père, ma grand-mère, ma mère, nous ont protégés de tout ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont empêchés de perdre la tête et de dire c'est oncle Charles, c'est tante Yvonne, c'est des gens de la famille. D'ailleurs, oncle Charles est président de la République, d'accord. Oncle Charles vient évidemment d'être nommé ou élu par les Français, le premier personnage de l'État. Eh ben, écoutez, oncle Charles vient dîner dimanche. Et donc, on dînait avec lui dimanche. Et donc, il arrivait, il nous embrassait, tante Yvonne nous apportait un petit cadeau. On a été élevés, si vous voulez, dans cette histoire qui est complètement différente que d'autres, c'est-à-dire qu'on a été hyper protégés. On n'a pas été mêlés à cette affaire. On a simplement été mêlés à cette affaire du fait que le général était président de la République à l'époque de l'OAS. C'est-à-dire que faut expliquer aux auditeurs de France Culture que l'OAS était une association de malfaiteurs qui s'appelait l'Organisation de l'Armée Secrète et qui voulait tuer un certain nombre de personnes parce que le général de Gaulle avait décidé de rendre l'Algérie à l'Algérie. Mais enfin là, je ne suis pas assez qualifié pour aller plus loin dans ce débat. Mais comme l'OAS à l'époque faisait des menaces physiques et voulait tuer tout le monde, notamment le général de Gaulle et sa femme, et notamment les membres de sa famille. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait un petit changement dans nos habitudes, dans la mesure où il y avait des officiers de sécurité qui nous suivaient, etc. Mais on s'en rendait pas compte, mais on s'en rendait compte quand même. Voilà, c'est la seule période où on a été, un peu concerné par la fonction du général de Gaulle en tant que président de la République. Mais le reste du temps, moi j'étais à l'Élysée plusieurs fois, j'ai été à Colombey plusieurs fois en vacances. C'était mon oncle. On jouait au tennis, on se baignait. Il m'est arrivé de jouer avec mes cousins au tennis sur un terrain en terre battue à Colombey où il regardait le match, etc. Et puis il nous disait, la balle, je me souviens un jour d'une scène hallucinante, j'essaye de faire un coup droit décisif, je le réussis, la balle est sortie. Et je lui dis, il me dit, la balle est faute. Et je lui dis, vous êtes sûr, mon oncle? Ben, bien sûr que je suis sûr. Donc, la balle était faute, évidemment. J'ai arrêté de discuter immédiatement. Enfin, voilà, c'est le genre de souvenir que j'ai. Alors, on mangeait à des heures précises, on dînait à des heures précises, on regardait la télévision le soir, le journal de 20h, tous ensemble, et puis commenter. C'était l'été, c'était l'été. Donc, lui aussi était un peu en vacances aussi, C'est-à-dire qu'il faisait un petit break, et puis ses neveux, à tour de rôle, on venait passer une dizaine de jours.
Alors, vous nous avez parlé de votre grand-père, qui était député-maire de Calais. Votre père, lui aussi, a été élu député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il était aussi dans le milieu politique. Il a travaillé notamment auprès de Maurice Herzog, qui était secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, puis auprès de Michel Debré, je crois. La politique, c'est un peu le bain dans lequel vous baignez quand vous étiez petit.
Mon père est arrivé très tard à la politique. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote, mon père avait été, au départ, il était représentant. Il vendait ce qu'on appelle des produits alimentaires anglais. Les produits alimentaires anglais, maintenant, c'est le ketchup, c'est le Piccadilly. Et mon père était représentant pour tout le Nord, parce que mon grand-père avait vendu la biscuiterie Vendroux pour se consacrer à la politique auprès du général de Gaulle. Donc mon père, il a fallu qu'il trouve un métier quand même. Donc il avait trouvé ce métier. Et il était très heureux, mais il avait quand même quelque chose qui l'agitait, c'était la politique, etc. C'était dans les gènes. Et on est parti habiter à Lyon. Et puis il a fait la connaissance à Lyon d'un type dont je me souviens très bien, qui s'appelle Pierre Guirmont, qui voulait se présenter à la députation sous l'étiquette UNR, Union pour la Nouvelle République. Vous voyez, je m'en souviens. Mon père est devenu son suppléant. Ils ont été élus. Il a fait le parcours, mon père continue à travailler, etc., à Lyon, toujours dans les produits alimentaires anglais. Et puis un jour, mon père demande rendez-vous au général de Gaulle. Et il lui dit, bonjour mon oncle, parce que mon père nous l'a raconté 50 000 fois cette histoire. Bonjour mon oncle, oui, comment vas-tu Jackie? Mon père, on le surnommait, enfin, les gens, moi je l'appelais papa, mais tout le monde l'appelait Jackie.
Jacques, il s'appelait Jacques-Philippe, comme vous, votre nom de baptême, c'est Jacques-Philippe.
Septième, moi je suis le septième.
Voilà, votre grand-père c'était Jacques-Philippe V, donc.
Moi j'étais le septième, voilà. Ouais. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il va voir le général de Gaulle, et il dit au général, mon oncle, voilà, je m'excuse, je voudrais me lancer vraiment dans la politique. Et je voudrais que vous me donniez l'investiture de l'UNR, donc l'Union de la Nouvelle République, qui était l'équivalent du RPR, qui était l'équivalent maintenant des Républicains. Et je voudrais me présenter, je voudrais avoir une circonscription. Mais pour avoir une circonscription, il faut que j'ai votre autorisation et il faut que j'ai surtout l'investiture. Et le général de Gaulle lui répond tout de suite, ça tombe bien que tu m'en parles, j'ai un problème à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai pas de candidat déclaré. Tu veux faire de la politique, eh bien, je te donne l'investiture si tu vas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et mon père sort de l'Élysée, ne sait pas où c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Il rentre chez nous, on habitait le 20e, il réunit tout le monde, il envoie ma sœur acheter une carte du monde, et il commence à se renseigner, etc. Donc on parle avec lui, mais bon, il nous demandait pas conseil, il voulait simplement savoir où c'était. Et puis nous, on lui disait, mais attends papa, c'est une chance inouïe, tu vas te présenter député dans un département et territoire d'outre-mer, c'est une aventure, comme moi j'aimais bien les... Comme j'étais déjà dans la culture sportive et que j'aimais les aventures sportives, je lui dis, c'est comme une aventure sportive. Et puis mon père m'écoutait beaucoup parce qu'on était très complices. Et donc il est parti, il a fait une campagne qui a duré 6 mois, il a été élu au premier tour. C'est d'ailleurs, c'est très marrant parce que le premier résultat qui était annoncé quand il y a eu les législatives, c'était le résultat de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au décalage horaire qui nous était favorable. Et donc, moi j'étais content, j'ai réussi à l'appeler, je pleurais, on pleurait tous parce qu'il avait gagné. Et moi, le fait de gagner, que ce soit en sport ou en politique, je suis content pour les gens que j'aime en tous les cas. Et donc voilà le parcours de mon père. Il est resté, il a fait deux législatures. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour mon père et mon grand-père, parce qu'ils se sont embarqués en politique auprès du général de Gaulle. Et le jour où le général de Gaulle a décidé, un lundi à midi, de mettre un terme à ses fonctions de président de la République...
En 1969.
Mon père et mon grand-père ont fait la même chose. C'est-à-dire, ils ont dit, si on est là, c'est grâce à lui. Il n'est plus là, on s'en va. On n'a plus rien à faire. Et donc, c'est là où mon père a été nommé, mais ça, c'était bien avant sa carrière de député avec Maurice Herzog, dont il était le chef de cabinet. Et après, il a été nommé, je veux dire, puisqu'il avait arrêté la députation, comme conseiller technique de Michel Debré, qui était à l'époque ministre des Finances. Le fait d'en parler, j'ai l'impression de revenir dans la vraie vie de mon enfance, parce que je me souviens de tout. C'est incroyable, je me souviens de tout. Parce que c'est une vie qui est incroyable. Elle est incroyable, cette vie, je veux dire, par rapport à mes parents, par rapport à mon grand-père, par rapport à mon oncle, par rapport à tout ce que j'ai vécu. C'est une vie qui est irréelle quelque part. Je suis un enfant gâté, parce que j'ai toujours été gâté toute ma vie.
Alors justement, vous nous avez parlé brièvement, et on y reviendra, de votre passion pour le football, pour Gordon Banks, le gardien de l'équipe d'Angleterre championne du monde. À part cette passion pour le football, vous étiez quel genre d'enfant ? Un peu turbulent ?
Très turbulent. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, comme maintenant d'ailleurs. Vous savez, des fois, je parle avec ma mère, ou je parle, qui vit toujours, ou je parle avec mes oncles, ou mes amis qui me connaissent depuis toujours. En fait, dans ma tête, je n'ai jamais changé. J'ai toujours été espiègle, turbulent, provocateur, déconneur, chambreur, mais avec un dénominateur commun à tout ça, rire, et pas se prendre au sérieux, et pas se prendre la tête, et de prendre la vie du très bon côté. Et c'est pour ça que, vous savez, c'est très important d'avoir la liberté de choisir la vie que vous voulez. C'est important. Moi, je voulais être Banks. Bon, j'ai pas pu être Banks. Et puis après, je dis à mon père, papa, y a problème, là. L'école, ça va pas du tout. Le lycée, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui dis, je voudrais devenir Thierry Roland. Donc, c'est comme ça a débuté ma carrière, un 2 mai 66, où je me suis retrouvé dans le bureau de Raymond Marciac, et mon père, qui était à l'époque chef de cabinet de Maurice Herzog, eh bien évidemment, j'ai été engagé immédiatement. Donc j'ai toujours dit, et je m'en suis jamais caché, et je l'assume complètement, je suis ce qu'on appelle un pistonnet de la 5e République, parce que si je n'avais pas été le neveu du général de Gaulle, je ne serais pas sur France Culture aujourd'hui avec vous en train de vous raconter mes souvenirs et une partie de ma vie.
Alors ce petit coup de piston en 66, on en reparlera cette semaine bien sûr et de vos débuts à l'ORTF. Mais pendant qu'on évoque votre jeunesse et puis le fait que vous êtes un petit neveu du général de Gaulle, on a célébré cette année, il y a quelques semaines, Jacques Vendroux, les 50 ans de mai 68. Un jeune garçon turbulent en mai 68, mais qui est le petit-neveu du général de Gaulle. Comment ça s'est passé pour vous, mai 68?
Vous, ça s'est passé de la manière la plus simple possible. Parce que j'étais à l'armée. Donc, à l'époque, on pouvait cumuler votre métier de journaliste et d'être à l'armée. C'est-à-dire qu'on était à l'armée le matin de 5h du matin à 14h. Et de 14h, il y avait une règle... où vous pouviez continuer votre métier pour pas perdre de temps dans votre métier, parce qu'à l'époque, le service militaire faisait quand même 18 mois. Donc, moi, je travaillais le matin de 5h à 14h, et à 14h, je m'en allais travailler. Comme j'avais débuté en 66 à la télévision, j'ai pu continuer à faire de la télévision, et j'ai pu continuer aussi à découvrir la radio. Parce que, quand vous parlez de cette période de mai 68, le général de Gaulle avait décidé que tous les membres de sa famille ne seraient en aucun cas pistonnés pour faire son service militaire. C'est-à-dire qu'on ferait notre service militaire d'une manière la plus dure possible. Il ne voulait pas qu'on dise que, appartenant à la famille générale de Gaulle, qu'on se retrouve dans un bureau tout près de la maison de la radio, tranquillement, à rien foutre de ses journées, etc., etc.
Mais ça a failli commencer comme ça pour vous, quand même. Ça a commencé même comme
non,
ça.
Non, j'avais imaginé que ce serait comme ça. Et puis un jour, le général de Gaulle l'a su. Donc il a téléphoné à l'époque à Pierre Messmer, qui était le ministre des armées. Il lui a dit, on me dit que l'un de mes neveux, Jacques-Philippe Vendroux, le fils de Jackie, serait dans des conditions favorables pour faire son service militaire. Le général a raccroché. Pierre Messmer a appelé mon père. Et je crois que le lendemain, j'étais dans un avion pour la Guyane, où je suis parti nommé arbitrairement dans une compagnie commando pour construire des ponts dans ce département français d'outre-mer, la Guyane. Donc je veux dire, autant j'ai été pistonné quand je suis rentré à la télévision, autant j'ai pas du tout été un pistonné du service militaire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais donc, je travaillais de 6h à 15h. Je construisais d'abord des ponts, après j'allais à la radio, à France 3, Cayenne, où j'ai fait la connaissance de Jérôme Bellet, qui a fait cette carrière incroyable après. Et il m'a appris la télévision, il m'a formaté, il m'a appris à commenter des matchs à la radio, le derby entre la JS Cayenne et l'US Cayenne, le derby entre Kourou et l'autre club de Kourou, et j'ai appris mon métier de la radio grâce à Jérôme Bellet. C'est lui qui m'a fait, je dirais pas progresser, mais c'est lui qui m'a appris en tous les cas l'outil de la radio. Et tout ça, donc alors mai 68, je suis très loin. Je suis très loin. Je sais ce qui se passe. Parce que justement, étant à France 3 Cayenne, je vois la télévision, j'écoute la radio, je sais ce qui se passe. Et je suis très heureux d'être là-bas. Parce que je me connais, je me serais embarqué dans des défilés, j'aurais voulu être le sauveur de je sais pas quoi, j'aurais voulu être Zorro ou Manix ou Elliot Ness, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, heureusement que j'ai pas été mêlé à cette histoire de mai 68. Et d'ailleurs, quand je vois Daniel Cohn-Bendit, je lui dis régulièrement, heureusement que je t'ai pas rencontré, parce que t'aurais pas eu beaucoup de mal à me convaincre à faire un semblant de révolution. Voilà.
Et la Guyane, ça reste donc un souvenir émouvant pour vous. Vous y êtes retourné.
Je suis retourné une fois avec le Variété Club de France. On était faire un match à Kourou. Puis on revient le jour même. On était logé à Cayenne. Et je dis, tiens, moi, je vais aller revoir ma caserne. Voilà. Et Platini me dit, ben, je viens avec toi. Je dis, oui, d'accord, mais bon, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, il dit, non, je vais avec toi, ça m'amuse d'aller avec toi, parce que c'est quand même on en reparlera, mais vous savez que c'est l'un de mes grands amis dans la vie. Et donc, l'événement, c'était pas moi qui allais revoir ma chambre, c'était Platini qui venait à la caserne Loubert. Ça a été la révolution. Le commandant, il comprenait rien, et on lui dit, il y a Michel Platini qui est dans la cour, il est venu visiter le dortoir où dormait Jacques Vendroux, etc. Enfin bon, il y avait... une pagaille qui était complètement inattendue pour des militaires complètement organisés, des gens très organisés. C'était pas du tout prévu que Michel Platini vienne, comme c'était pas prévu que je vienne. Moi, je voulais simplement... Alors, je vous dis pas, là, ils nous ont emmenés au dortoir, dans un dortoir. Après, ils nous ont emmenés boire un coup. Ils ont été, merveilleusement bien gentils. Et je garde... Alors, j'entends plein de gamins qui disent, ou même des gens de ma génération... Je me suis emmerdé à l'armée, c'est une connerie de faire l'armée, etc. C'est une école de la vie extraordinaire. C'est une école qui vous apprend à vivre en collectivité. Et c'est le plus important. Et donc, moi, j'en garde un souvenir merveilleux. Et je suis pour le service militaire. Ça nous forme à vivre d'une manière un peu différente. D'abord, de vivre en collectivité. Deuxièmement, quand vous partez dans les départements et territoires d'outre-mer, je veux dire, forcément, vous allez fréquenter et côtoyer des gens qui sont pas du tout des mêmes origines que vous. Moi, j'étais un enfant gâté de Calais, dans une famille bourgeoise, etc., où j'ai manqué de rien, où mes parents se sont merveilleusement bien occupés de moi, mon grand-père, enfin, on en a parlé déjà, ma grand-mère, enfin, mes grands-parents en règle générale. Et là, je me retrouve avec des Guyanais, je me retrouve avec des Brésiliens qui venaient d'être naturalisés français en habitant la Guyane. Je me suis retrouvé avec un certain nombre de personnalités complètement différentes. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. C'était l'un des grands souvenirs de ma vie. Et ça a été l'une des écoles aussi de ma vie. Parce que c'est très curieux, parce qu'on a côtoyé toutes les religions. On a appris... la religion juive, la religion musulmane, la religion catholique, je la connaissais déjà un peu, il y avait des protestants, et donc c'est hyper important de sans vouloir donner des leçons de morale, mais c'est hyper important de savoir comment les gens qui sont dans la même chambre que vous vivent leur religion. Je veux dire, c'était dans les années 67-68, donc il y avait des musulmans qui avaient un tapis, qui faisaient leurs prières, mais moi je comprenais pas au départ. Et une fois qu'ils m'ont expliqué, j'ai compris. Et c'est important dans la vie en collectivité. Vous savez, pour moi, il y a deux choses qui sont très très importantes. La collectivité, vivre en collectivité, comme ici Radio France, et le vestiaire. Vous êtes obligé d'être ami avec tout le monde, ou faire des efforts avec tout le monde, et d'accepter tout le monde. C'est exactement la même situation dans un vestiaire de football. Et moi, j'ai vécu toute ma vie dans les vestiaires de football, soit comme joueur, soit comme commentateur. Et donc, c'est une vie, mais fantastique, fantastique.
On parlera du football demain et des vestiaires, du terrain, des tribunes. Un petit mot peut-être encore, puisque vous étiez peu nombreux à être à l'enterrement du général de Gaulle. Il y a eu beaucoup de monde était à Colombey. Vous étiez dans l'église. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là?
Mais là aussi, mes parents, mes grands-parents nous ont protégés. C'est-à-dire que quand quand mon père m'a téléphoné, je m'en souviendrai comme si c'était hier, c'était un matin, il m'appelle, il me dit, voilà, oncle Charles est mort, donc, je te tiens au courant, je te rappelle, on ne sait pas encore quand sont les obsèques, parce que le général était mort la veille, et c'était encore très secret avant que ça soit rendu public, et je vais te dire comment on va y aller, parce que mon père, donc mon grand-père, veut qu'on soit tous ensemble, veut qu'on soit qu'on dîne ensemble la veille de l'enterrement. Il va réserver un hôtel. Il souhaite, mon grand-père souhaitait qu'on, qu'on participe à ce moment historique, parce que c'était un moment historique, la mort du général. Et voilà, donc on est parti à Colombey, et puis on était tous logés dans un hôtel à Chaumont. Et on est parti en voiture avec mon père, parce qu'il y avait plusieurs voitures. Et je suis arrivé, il était 6h du matin, devant l'église de Colombey. Et il y avait déjà beaucoup de monde. Et je vois un couple. Il fait très froid, très très froid. Et je vois un couple qui est enlacé contre le mur de l'église. Je passe devant ce couple avec mon père. Et vous savez qui c'était ? Marielle Guachel, gaulliste, qui était là avec son mari depuis 6h du matin. Marielle Guachel, qui a été l'une des plus grandes championnes de ski. Elle était gaulliste et elle était partie de Val d'Isère, la veille. Elle avait roulé toute la nuit. Elle est arrivée à 6h du matin. Ils avaient froid, mais ils voulaient être là. C'est le premier moment d'émotion de cet inoubliable souvenir.
On parlera de sport demain, Jacques Vendrouille, en particulier de football. Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Victor Massé de l'Épinay avec Jacques Vendrouille. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.